Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va parler de Donald Trump. Alors, bon, je sais que Donald Trump n'est pas aimé, j'en ai complètement conscience. Et vraisemblablement, je vais te dire ce que j'en pense, je m'en fous. Le fait est que tu l'aimes ou pas n'est pas le problème. Il met beaucoup de personnes mal à l'aise et je peux le comprendre totalement parce que c'est son mode opératoire. Ici, je vais te demander de mettre de côté tes ressentiments, tes opinions préfabriquées et surtout qui sont fondées sur rien pour que justement on écoute ce qu'il a à nous dire. Je n'ai pas écouté cette émission, je vais la découvrir avec toi. On va voir un petit peu ce qu'il a à dire. Je trouve que c'est intéressant. Personnellement, je veux quand même le préciser, je n'ai pas de problème avec Donald Trump. Bon, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le détestent. Moi, ce n'est pas mon cas. Je connais son histoire, je connais les aléas, j'aime bien le bonhomme, il a fait plusieurs fois faillite, il a reconstruit sa société, il y a des zones d'ombre, il y a des zones plus claires, voilà, comme j'ai envie de dire, toutes les histoires en réalité. Après, tu as le droit de ne pas l'aimer, le fait est qu'on va aujourd'hui travailler sur son profil, et en tout cas, sur ce qu'il a à nous dire, puisqu'il va dévoiler, a priori, sa vision du succès. Et je trouve que ça va être intéressant, parce que je suis certain qu'il a des choses à nous dire. Mais avant, et comme d'habitude, va sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a ma formation. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Et dans l'onglet coaching, eh bien, tu réserves une heure de coaching ou une demi-heure ou quatre heures. Enfin, tu fais ce que tu veux et on travaille ensemble sur tes projets. Petit détail avant qu'on lance le magnéto. Je parle un peu du nez. J'ai mes allergies. J'en suis désolé. Tu vas devoir faire avec. Sans plus de transition, Patrick Magnéto.
J'aimerais vous parler pendant quelques minutes de succès. Est-ce que vous voulez que j'en parle? Vous le voulez vraiment? Ou vous préférez que je vous parle de cette ennuyeuse politique? Ok, vous voulez que j'en parle un peu? J'ai gagné beaucoup d'argent pour avoir donné des conférences sur le succès que j'ai d'ailleurs donné à des œuvres de charité. J'adore parler de succès. Honnêtement, je préfère bien plus parler de succès que parler de politique.
Alors déjà, là, il y a un paradoxe dans ses paroles, et je pense que tu l'as souligné. Il parle de l'ennuyeuse politique, et naturellement, tu vas te poser la question « Mais pourquoi tu fais de la politique si c'est ennuyeux ?» Et je dois mettre en avant une position qui est inconfortable pour moi et que je veux que tu entendes, c'est que tu ne peux pas comprendre Donald Trump. En fait, une personne qui n'a pas d'argent ne peut pas comprendre une personne qui a de l'argent. Il y a quelque temps, j'ai un ami à moi qui est resté songeur et interrogatif sur un truc que je me suis acheté, peu importe, on n'est pas là pour parler de moi, c'est pas la question. Et il m'a dit d'ailleurs, il m'a confié, mais publiquement, il y avait des gens tout autour de moi et tout, il m'a dit... Nicolas, je comprends pas pourquoi t'as acheté ce truc en fait. Il comprend pas en fait. Ça le dépasse complètement. Il m'a dit en plus je te connais. Donc tu vois, ça m'a fait rire parce que j'ai senti qu'il y avait une pointe de véritable. Tu vois, comme si j'avais trahi quelque chose de ma personne. Et ça m'amuse beaucoup parce que, indépendamment du fait que tu comprennes ou pas ce que fait Donald Trump, en fait, Donald Trump fait de la politique parce qu'il peut le faire. Et toi, tu ne fais pas de la politique parce que tu ne peux pas le faire. Fondamentalement, la différence entre toi et Trump, c'est le choix. Trump est arrivé à un niveau où la politique devenait un choix envisageable pour lui, qui fait que toi, ça n'en est pas un pour toi, et donc de là naît l'incompréhension. L'incompréhension, c'est quoi? C'est quand tu vois chez l'autre une chose qui, d'une manière ou d'une autre, ne fait pas que te dépasser, mais qui est aussi inaccessible pour toi. Quand Donald Trump te dit « J'adore donner des conférences sur le succès et je les donne dans des œuvres de charité », ça veut dire que non seulement il aime le faire, mais en plus, il ne le fait pas pour de l'argent. Donc, tu vois bien que l'incompréhension est encore plus profonde quand tu as un milliardaire qui t'explique ça. Ça veut dire que le mec est prêt à perdre du temps pour parler d'un sujet qui l'intéresse. Ça explique aussi pourquoi il a écrit un livre avec Robert Kiyosaki. Et ça te permet de te rendre compte que finalement, certaines réflexions qui pour l'instant sont hors de ta portée, sont simplement hors de ta portée parce que tu n'es pas encore arrivé à ce stade où tu pouvais te poser cette question. Et on peut se poser les questions quand on a le choix, quand on est dans une situation où finalement on peut se dire « je peux le faire, est-ce que je le fais ?» Par exemple, moi, j'ai les voitures, j'ai pas de problème à parler de ça. Je suis pas un grand fan de voitures. J'ai le choix d'avoir des voitures et je ne choisis de ne pas en avoir ou d'en avoir en fonction des situations. Et quand j'ai le choix d'avoir des voitures, je ne choisis pas des voitures à l'échelle forcément de mes moyens. Ça peut surprendre beaucoup de personnes, mais ça reste un choix personnel. Et le choix, il n'est pas le même quand l'on choisit quelque chose par dépit, par défaut, ou parce qu'en fait, en réalité, le choix que l'on fait, c'est le choix de bon sens ou le seul choix que l'on a, que quand on fait le choix que l'on a réellement. C'est-à-dire, j'achète cette Porsche et j'achète ce Kangoo parce que je veux le Kangoo et la Porsche. Et là, c'est plus pareil, tu vois. Donc, je prends cet exemple volontairement parce que je connais quelqu'un qui roule en utilitaire toute la semaine et qui a une Porsche le week-end. Et c'est marrant parce que, et d'ailleurs, il a plusieurs utilitaires pour la semaine parce que son taf au quotidien, c'est en utilitaire qu'il le fait. Et il n'est pas du tout dans la maçonnerie ou dans les travaux en plus. Hein. Il est dans l'automobile, si tu veux tout savoir. Et le week-end, il roule en Porsche. Et c'est marrant parce qu'il y a ce contraste et tu te dis, mais pourquoi utilitaire? Tu pourrais prendre n'importe quoi d'autre. Oui, mais c'est ce dont j'ai besoin. Et c'est mon choix. Et c'est là où je veux en venir. C'est que Trump, il a le choix. Et quand tu as le choix, c'est pas pareil. Et quand je dis l'argent, c'est avoir le choix, c'est exactement ça. L'argent, c'est avoir le choix. Et plus tu vas arriver à un certain niveau, plus tu vas avoir de choix, plus tu vas avoir de choix, plus tu vas pouvoir faire des choses que la plupart des gens ne comprennent pas. Et pour moi, cette introduction, elle cristallise parfaitement l'incompréhension qu'il y a autour de Trump parce qu'en fait, finalement, il est milliardaire. Il a le choix de faire beaucoup plus de choses que la plupart des gens n'ont pas. Et donc, c'est ce choix-là que les gens n'ont pas. Ben déjà, ils ne peuvent pas le comprendre de nature parce qu'ils n'ont pas ce choix. Et c'est pas bien parce que ça nous met dans une position inconfortable. Tu pourrais me dire, oui, mais c'est pas parce que j'ai pas d'argent que je peux pas faire de politique. Ben, je suis désolé de te dire ça. Si tu fais de la politique, tu dois savoir que pour mener une campagne, il faut lever des fonds et donc faire campagne. Trump, il avait pas besoin de faire campagne. Il a pu financer sa campagne tout seul. Et ça, ça en fait chier plus d'un. Excuse-moi d'être vulgaire, tu sais que j'aime pas l'être dans les podcasts, mais d'ailleurs dans la vie en général, mais c'est la vérité. Parce qu'en fait, il a eu le choix de A à Z, de mener sa campagne comme il l'a bien voulu, sans forcément devoir aller séduire je ne sais qui. Et en plus, le plus ironique dans cette affaire, c'est qu'il a quand même fait campagne et qu'il a quand même fait financer sa campagne. Donc ça te montre que, et c'est encore ça le plus drôle, les gens qui n'ont pas d'argent ne comprennent pas cette mécanique et disent « Oui, mais si tu avais de l'argent, tu aurais fait comme ci ou comme ça. » Mais alors, tu n'as pas d'argent, tu ne sais même pas comment ça marche. Et les gens qui ont de l'argent, ils ont de l'argent parce qu'ils ont conscience de l'argent. Et ça te montre en fait cette énorme incompréhension qu'il y a entre ceux qui en ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. Et le point qui les différencie de façon essentielle se situe exactement à ce niveau, c'est-à-dire que les gens qui ont de l'argent ont conscience que l'argent est quelque chose d'extrêmement fragile, alors du coup, ils le protègent. Et les gens qui n'ont pas d'argent ne comprennent pas cette notion de fragilité et du coup, ben, ils ne comprennent tout simplement pas l'argent.
Mais il y a certaines choses quand il s'agit d'avoir du succès. Et je l'ai déjà dit et je le redirai car ça ne changera jamais. Vous devez aimer ce que vous faites. Vous êtes tous jeunes. L'idéal, c'est d'aimer quelque chose qui est un bon business. Soyons honnêtes, certains business sont de mauvais business. Je ne vais pas les nommer, mais ce sont des business difficiles. Vous devez absolument aimer ce que vous faites. L'idéal, c'est que ce que vous aimez faire est dans la catégorie des bons business. Mais vous savez quoi? Si ce n'est pas le cas, la passion est plus importante que d'avoir un bon business. Certaines personnes veulent devenir professeurs. Certaines des personnes les plus heureuses et qui ont le plus de succès que je connais ne sont pas les personnes qui sont les plus riches. Ce ne sont pas ceux qui font le plus d'argent. Ce sont des enseignants, des scientifiques. Je connais certains scientifiques qui sont juste impatients de retourner au travail.
Alors là, on pourrait presque avoir un point de désaccord, mais il fait le distinguo entre les bons et les mauvais business. Je trouve que c'est intéressant, ça donne de la dimension, je ne l'avais jamais vu comme ça. Effectivement, il y a des bons et des mauvais business. Et je pense que c'est à toi de faire la part des choses et d'avoir la capacité à reconnaître que peut-être ta passion ne rapporte pas d'argent. Alors lui semble sous-entendre que même si tu es passionné d'un truc qui ne rapporte pas d'argent, il faut quand même le faire. Pour moi, ça veut dire que du coup, ça t'oblige à avoir du talent et à être bon. Ce qui, soyons honnêtes, est quand même quelque chose d'assez compliqué à prédire. Mais je vais quand même ici mettre ma graine. Je suis désolé de te dire ça. Si jamais ta passion ne rapporte pas d'argent ou est un mauvais business, eh bien, garde ta passion dans un coin et vis là avec ta manière de la vivre. Et surtout, choisis un bon business et gagne de l'argent de l'autre côté. Je veux dire par là que ne fais pas de ta passion ton travail si tu n'as aucune chance de gagner de l'argent avec. Ça serait une énorme erreur. Et si je pense que sur ce point-là, on aura un désaccord. Alors que lui a l'air de le dire que malgré tout, si, fais-le. Et moi, je pense qu'il vaut mieux malgré tout que tu t'orientes sur un business qui te rapportera de l'argent. Parce qu'avec l'argent, tu pourras alimenter ta passion, dans tous les cas. Alors que si ta passion ne te rapporte pas d'argent, tu finiras tôt ou tard, à mon sens, par la détester. Après, moi, j'aime toujours écouter les avis contraires. Ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que si ta quête ne se focalise que sur le bonheur et le bien-être et le fait de te réveiller le matin en ayant envie d'aller faire ce que tu fais sans apporter d'importance au montant d'argent et aux possibilités que t'offre l'argent dans la vie, dans ces cas-là, c'est acceptable. Mais du coup, comme tu le vois, ça reste quand même une équation multifactorielle, c'est-à-dire que d'un côté, il faut que ta passion coïncide avec le fait de gagner ou pas de l'argent. Et de l'autre côté, il faut que tu sois un profil de personnalité qui n'attire pas forcément, enfin qui ne n'apporte pas forcément d'importance au volume d'argent disponible dans sa vie. Ce qui fait que, comme je viens de te le dire, c'est une équation multifactorielle. Et comme moi j'aime jouer la sécurité, je sais que la plupart des gens, quand ils ont accès à des moyens financiers, quand même, ils préfèrent la vie avec de l'argent. Et je sais que quand tu as un boulot qui te rapporte de l'argent, ben, tu as tendance à l'aimer. Donc du coup, si déjà tu te contentes de ces deux éléments, tu as quand même plus de chances de bien t'en sortir que si tu te lances dans « je cherche un boulot qui soit une passion ». Et en plus, je vais faire en sorte que l'argent ne soit pas important pour moi. Ça existe, je ne le nie pas, mais malgré tout, ça reste complexe. Voilà, la vie, c'est, tu verras, c'est un ensemble de plein de choses. Plus tu simplifies tout ce sur quoi tu peux simplifier, c'est-à-dire que dans notre rayon d'action respectif, on a des points sur lesquels on peut agir directement. Donc sur ces points, plus tu vas mettre en place des choses simples, plus tu vas pouvoir profiter de la vie. Et donc, c'est pour ça que j'essaye de te donner des équations simples pour que justement, tu puisses au maximum profiter de la vie.
Les personnes les plus heureuses sont, premièrement, les personnes qui ont une famille, les personnes qui entretiennent de bonnes relations avec leur femme ou leur mari. Très, très important pour avoir du succès. Parce que je ne pense pas que le succès se mesure uniquement par l'argent que vous gagnez. Parce que je connais certaines des personnes qui ont le plus de succès au monde et beaucoup de ces personnes sont vraiment très misérables. Et peut-être que pour certains, je fais également partie de cette catégorie. Mais moi, je suis très heureux. Je suis très épanoui. Ça, je peux vous l'assurer. Mais certaines des personnes qui ont le plus de succès au monde, je connais la plupart d'entre elles. Je ne les connais pas tous, mais j'en ai rencontré pas mal. Beaucoup d'entre elles ont souvent croisé ma route. Et je peux vous dire que ce ne sont pas nécessairement des personnes très heureuses. Ce sont des personnes très riches, mais qui la plupart du temps sont très malheureuses. Alors attention, mon but n'est pas de vous dissuader de réussir. Lorsqu'on parle de succès, la plupart des gens pensent que le succès se mesure uniquement par l'argent que vous gagnez. Eh bien, non, pas vraiment. Pour moi, une personne qui a réussi est une personne qui a une famille formidable, qui aime sa famille, qui aime ses enfants, et ses enfants l'aiment aussi en retour. Pour moi, ça c'est une personne qui a bien mieux réussi dans la vie que le gars qui a gagné 1 milliard de dollars, ou même 10 milliards de dollars, et qui se sent misérable, qui n'a pas de famille qui l'entoure, et qui n'est aimé par personne.
Moi, je trouve que c'est super intéressant, tu vois, d'écouter ça. D'abord, ça te fait voir l'homme sous un autre angle. Et en plus, avant même de parler du sujet qu'il est en train d'aborder, moi, personnellement, ce que j'ai envie de te dire, c'est que regarde, il a quoi ce mec ? Il a un sens des priorités. Et ça, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ça sert à rien de gagner des millions et des milliards si t'as pas une famille avec laquelle tu comptes, si tu déjà commences pas par entretenir de bonnes relations avec ta famille, si tu fais pas en sorte que ta famille soit au centre de tout ce que tu fais. Gagner de l'argent, c'est bien, mais tu le fais pourquoi ? Souvent, j'entends ce truc de pourquoi. C'est un truc que j'ai jamais compris parce que j'ai la même vision que lui sur ce sujet-là. C'est-à-dire que pour moi, la famille, c'est central. Et comme c'est central, la question s'est jamais posée en fait. Pourquoi ? Ben pour ma famille. Voilà, c'est tout. C'est une bonne réponse qui se suffit à elle-même. Et avoir un sens de la famille développée, agir dans cette optique-là, ça règle 99% des problèmes de ta vie. Parce qu'en réalité, si tu te sens bien dans ta famille, avoir ou ne pas avoir de l'argent, ça n'a aucune importance. Je te le dis en rigolant, tu sais pourquoi ? Je rigole. Parce que des fois, je le dis à ma mère, je lui dis, tu sais, maman, en fait, je crois que j'ai aimé quand on n'avait pas d'argent parce qu'on était ensemble et que ces moments-là, en fait, ils étaient particuliers, en fait. C'est vrai que dans l'adversité, tu te resserres et c'est quelque chose qui est indescriptible. Alors, c'est hyper agréable d'en parler quand c'est derrière, hein, je vais pas te mentir, hein, je dis la vérité, c'est encore plus appréciable de se rappeler de ces moments-là quand ces mauvais moments sont passés et qu'on en parle justement parce qu'on a traversé, on a réussi à s'extraire de cette situation. C'est certain que ça a une saveur encore meilleure. Mais avoir ou pas avoir d'argent, dans la mesure où tu es entouré par les gens que tu aimes, ça n'a pas d'importance. J'ai une histoire que je raconte, ça fait longtemps que je ne l'ai pas racontée, alors je la raconte pour les nouveaux auditeurs et tout, et j'aime bien la raconter. Moi, j'ai eu ma fille grâce à ma femme, hein, faut dire les choses comme elles sont. Je suis un mec qui se réveillait le matin et qui se disait toujours on pourra avoir un enfant plus tard, tu vois. Et sauf que un matin, on avait un certain âge avec ma femme et elle m'a dit garçon, c'est maintenant, tu vois. Elle m'a mis la pression et c'est vrai qu'elle a bien fait. Je la remercierai jamais assez d'avoir fait ça parce que j'aurais attendu encore pour avoir ma fille et je sais pas ce que j'attendais, mais bon, bref, c'est des erreurs de jeunesse. Ça, c'est comme ça, on en fait tous. Et le truc, c'est que j'ai eu ma fille dans un cadre qui n'était pas le cadre dans lequel j'aurais voulu l'avoir. C'est-à-dire que j'avais pas, à ce moment-là, on était en plein déménagement, on était dans une situation un peu complexe. Je venais de vendre ma maison, on a pris un de mes appartements qu'on louait. C'était un truc hyper provisoire. Et en fait, c'était clairement, je m'étais toujours dit que j'aurais pas un enfant dans ce cadre-là. Et en fait, ma fille, je me réveillais tous les matins, elle avait le sourire, elle était tout le temps heureuse. C'était trop bien en fait parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que moi-même, je m'étais tout seul mis des contraintes dans les conditions dans lesquelles avoir un enfant. Je m'étais dit, voilà, tu l'auras à tel moment, ce sera comme ci, comme ça. Tu sais, tu te fais ton propre schéma mental en mode c'est ça ou rien, tu vois. Et alors que c'était ridicule parce qu'en fait, c'était trop bien. En fait, elle s'en foutait royalement. On a resté dans cet appart 2 ans. C'était vraiment pas du tout ma femme était pas bien dans cet appart. J'étais pas bien, on pouvait pas voir nos affaires. C'était tout petit, on n'avait qu'une chambre, on dormait ensemble. Ben, tu sais quoi, j'étais heureux. Bon, moi, il me faut pas grand chose pour être heureux. J'ai pas honte de le dire, c'est vrai, j'ai pas besoin de grand chose. Bon, après, j'ai mes exigences. Hein. Quand t'as de l'argent, après, t'as des exigences. C'est sûr que quand t'as du. Je reconnais. Tu vois, je pense à un élève qui était à côté de moi au resto où il a vu mes yeux là quand un serveur a renversé de la bouffe sur ma jambe. J'étais un peu en mode intransigeant, tu vois, parce que ben, tu deviens comme ça, c'est pas bien. Hein. J'en ai conscience, c'était pas grave en plus, tu vois, j'ai pas honte de le dire. Avec le recul, c'était pas grave, mais c'est vrai que je suis un peu exigeant dans les restaurants, tu vois. Mais en vérité, je peux m'adapter à toutes les situations et toi, c'est pareil. Et là où je veux en venir, c'est que quand tu as un sens des priorités pour recentrer par rapport à son discours et que tu te rends compte qu'en fait, l'important, c'est d'être ensemble et peu importe le contexte et tout ce qu'il peut y avoir autour, bah, tu te rends compte qu'en fait, tu peux être heureux en toutes circonstances et que ce qu'il dit est vrai. La famille, c'est le plus important. Et je peux pas te l'apprendre. Je peux te le dire, mais je peux pas te l'apprendre. Parce que je peux entendre aussi qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec leur famille. Je peux entendre qu'il y a des situations qui créent des tensions dans la famille. Mais en vrai, ce que les gens ont du mal à comprendre et ce que peut-être tu ne comprends pas, c'est que ta famille, normalement, si tu arrives à comprendre ce truc-là, c'est ceux à qui tu peux tout dire. C'est ceux à qui tu dois tout pardonner. Et c'est ceux avec qui tu peux tout faire. Et si tu comprends ça, tu comprends l'essence de la famille et les valeurs que ça représente. Et le fait que de vivre, de travailler, d'être en famille, c'est la plus belle chose qui existe sur cette planète. Je souhaite à tout le monde de l'éprouver, de le ressentir dans sa chair. Et voilà, vis-le. Fais l'effort de créer ce truc-là parce que ça te transcendra et ça éliminera la question du pourquoi, en fait, naturellement. Parce que quand tu vis pour ta famille, ben en fait, il n'y a plus trop de questions à se poser sur ce qu'est le succès, ce qu'est l'épanouissement, le truc que tout le monde recherche, le bonheur, tout ça, tu vois, ça cristallise et élimine tous les problèmes de recherche et de perte de temps. Et alors, je vais m'adresser à toutes les personnes qui ont des problèmes familiaux, puisque j'en ai eu, et je voudrais te dire, je vais t'envoyer un message, si tu as des problèmes familiaux, c'est une décision. C'est-à-dire que tu peux avoir des problèmes familiaux, et décider que ces problèmes, tu les effaces. Décider de pardonner, décider de se dire, il s'est passé ça, eh bien, je vais faire table rase et je vais accorder et mon pardon et le droit de recommencer les choses. Et oui, ça ne va pas être facile. Oui, tu vas avoir des problèmes. Oui, ça va à des moments te tirailler. Mais en fait, si tu prends cette décision, tu verras que l'amour gagne toujours. Ça fait vraiment titre de film. Et moi, je suis d'accord avec lui. Je pense que
La famille, c'est une valeur centrale, c'est une valeur cardinale. Et encore une fois, ça montre qu'il a un sens des priorités, ça montre que tu dois avoir un sens des priorités. Je ne suis pas en train de te donner ton sens des priorités. Si tu ne veux pas que la famille soit ta priorité, c'est ton problème, ça te regarde. Mais par contre, priorise ta vie, donne un ordre et ordonne ta vie et tu verras que tout va bien aller pour toi.
J'en ai rencontré. Je pense avoir rencontré chaque type de personne qu'il existe sur Terre, que Dieu a créé, si vous voulez savoir la vérité. Et les personnes qui sont les plus heureuses ne sont pas toujours les personnes qui sont les plus riches. Mais en termes de succès financier, l'argent permet de vous rendre la vie plus facile. Vous n'avez plus à vous préoccuper de la nourriture, du loyer, des frais de scolarité. Quand vous êtes malade, vous allez voir les meilleurs docteurs qui ont plus de chances de résoudre vos problèmes. Soyons honnêtes, l'argent rend vraiment la vie plus facile. Et je connais pas mal de petites histoires sur des personnes qui ont du succès. Vous devez aimer ce que vous faites et vous ne devez absolument jamais abandonner. N'abandonnez jamais. Vous êtes peut-être si près d'y arriver.
Je pense que là, c'est difficile de ne pas être d'accord avec lui. Il relate finalement une réalité qu'on connaît tous. Avoir de l'argent, ça rend juste la vie plus facile. Ça élimine, on va dire, les problèmes du quotidien qui parfois vont générer des situations incongrues ou des situations dramatiques sans raison parce que finalement, avec de l'argent, ben rien de tout ça ne serait arrivé. Parfois, tu vas te retrouver embêté, tu vas pas pouvoir changer de voiture ou réparer ta voiture et du coup, tu es coincé et du coup, tu vas agacer plein de personnes autour de toi alors que avec de l'argent, ben, cette situation ne serait jamais arrivée. Donc, l'argent, c'est juste un facilitateur, pardonne-moi l'expression, mais c'est ça. Ça facilite simplement, on va dire, les aspérités du quotidien, les résistances que tu peux rencontrer. Ça ne règle pas tout. Et ce qui est extrêmement intéressant dans ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il donne pour moi l'une des clés du succès, si ce n'est la clé du succès, c'est de ne jamais abandonner. C'est certain que la plupart des gens, d'ailleurs, abandonnent avant même d'avoir commencé. C'est le plus triste. Il y a des gens, ils y réfléchissent une seconde et ils n'ont même pas envie de commencer parce qu'ils abandonnent dès le départ. Et c'est vraiment dommage, à mon sens, parce que c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est un travail long et laborieux. Avoir de l'argent, ça peut parfois être un véritable casse-tête parce qu'il y a pas mal de paramètres qui rentrent en ligne de compte, dont certains que tu ne maîtrises même pas, il faut le reconnaître. Par exemple, le facteur chance qui fait partie intégrante de la réussite. Alors, moi j'aime à le rappeler quand même, on a tous de la chance dans nos vies qui se présente à nous plusieurs fois d'affilée, donc il faut le savoir quand même. C'est-à-dire que pour moi, c'est une accumulation de facteurs et la capacité que va avoir une personne à saisir les opportunités. Bon bref, t'as compris l'idée. Et le truc, c'est que je pense, comme il le dit, qu'il y a trop de personnes qui abandonnent au moment où, justement, ils allaient atteindre leur objectif et connaître le succès qu'ils étaient venus chercher en première instance. Donc n'abandonne pas, parce que abandonner, c'est se rendre, c'est perdre tout ce que tu as investi dans le projet sur lequel tu t'es engagé. Au lieu d'abandonner, aux États-Unis, ils appellent ça un pivot. Moi, je pense que c'est un comportement beaucoup plus sain. C'est-à-dire que tu t'es engagé dans quelque chose, tu veux abandonner parce que comme on disait au début de cette émission, ben, ça ne te rapporte pas d'argent, ça ne te mène nulle part. Enfin bref, tu as identifié et surtout tu es dans une situation qui te contraint à abandonner. Eh bien, au lieu d'abandonner, essaye de voir comment tu peux recycler le projet. Comment finalement, ce dans quoi tu t'es engagé, tu peux ne pas en perdre tous ben, les efforts, tout l'engagement, tout ce que tu as pu mettre à l'intérieur pour récupérer un maximum d'éléments et te mettre sur de nouveaux rails, te mettre sur une nouvelle piste, te mettre finalement dans un nouvel axe, pas très éloigné ou éloigné de ce dans quoi tu t'es mis, mais pour lequel tu vas recycler tout ce dans quoi tu te seras engagé. Alors peut-être que ce que je suis en train de te dire est flou, donc je vais te donner des exemples. Par exemple, tu vas développer une startup, tu te lances dans une startup, tu vas créer, je ne sais pas moi, tu vas créer un logiciel, un algorithme. La startup que tu lances ne marche pas, tu fais faillite ou tu dois t'arrêter. Bien, tu vas récupérer cet algorithme et tu vas le recycler, tu vas garder des bases pour une nouvelle startup qui n'est pas dans le même domaine, mais pour laquelle ce que tu as produit peut être réutilisé. Ou alors, Autre exemple, tu as vraiment perdu beaucoup d'argent avec la société avec laquelle tu as créé cet algorithme. Eh bien, tu vas garder la société, tu vas créer une autre entreprise pour utiliser le déficit en déduction fiscale des futurs bénéfices que tu feras dans la nouvelle société. Donc, tu vois, il y a plein de manières finalement de réutiliser quelque chose que tu as fait pour ne pas perdre tout ce que tu as mis sur la table. Et ça aussi, je crois que c'est un des secrets des gens qui arrivent à aller assez loin dans les domaines dans lesquels ils s'engagent. Ils font en sorte de ne pas perdre l'énergie et finalement ce qu'ils ont engagé, les efforts qu'ils ont engagés dans l'activité, le domaine dans lequel ils ont fait faillite. Voilà, c'est une manière de penser qu'il faut essayer d'adopter et qui est, à mon sens, une des clés du succès avec le fait de ne pas abandonner.
Mon père avait l'habitude de raconter une histoire. Lui, il trouvait qu'elle était marrante, mais moi, je la voyais plus comme une leçon. Mais lui, ça le faisait beaucoup rire. C'était à propos d'un homme qui aimait le business du cola. Il aimait, vous savez, les sodas. Il adorait ça. Alors il créa une entreprise qu'il appela 3UP. Et quand mon père racontait cette histoire, il rigolait. Et moi, je l'écoutais et je me disais, non, ça ne me fait pas rire, cette histoire. C'est plutôt une leçon. Alors il créa son entreprise 3UP. Il en était très fier, mais l'entreprise ne marchait pas très bien, alors il décida d'y mettre fin et de mettre la clé sous la porte. Mais il ne voulait pas abandonner. Alors il en créa une autre, qu'il appela 4UP. Puis il créa 5UP. Et il créa 6UP. Et il échoua encore et encore. Et puis un jour, il décida d'abandonner. Et mon père disait, si seulement il avait essayé une fois de plus et qu'il avait tenté sa chance une dernière fois, il aurait créé 7UP et il aurait connu un succès incroyable. Je rigole parce que je repense à mon père quand il racontait cette histoire. Et nous l'interprétions différemment. Pour moi, ce n'était pas une histoire drôle. Je voyais ça plutôt comme une leçon de ne jamais abandonner. N'abandonner jamais.
6UP et 7UP. C'est marrant parce qu'en plus, tu vois, il rencontre une histoire qui reconnecte avec ce qu'il parlait tout à l'heure de la famille. Et tu vois, je suis embêté parce que je sais pourquoi les gens n'aiment pas Trump. Vous ne l'aimez pas parce que c'est un négociateur. Et c'est un mec qui sait exactement comment faire bouger les lignes. Il sait comment faire pour te bousculer et te faire réfléchir, tu vois. Et là, c'est marrant parce qu'en plus, il te met dans une position où, tu vois, il coupe la poire en deux et il te dit, toi, t'es de quel côté ? Tu vois, regarde là ce qu'il vient de faire. C'est hyper intéressant. La mécanique, elle est hyper intéressante. Il dit, moi, mon père, il rigolait parce que pour lui, c'était une blague. Parce que cet ami, ben, il s'est arrêté à 6UP en ayant créé plein de boîtes et en ayant finalement fini par fermer toutes ses boîtes et sans jamais avoir créé une entreprise qui réussit. Alors que s'il avait créé une boîte de plus, il aurait peut-être fait 7UP puisqu'il avait eu l'idée de 6UP, qui était le chiffre juste avant 7. Et du coup, pour l'interprétation de Donald, ça voulait juste dire « mais tu ne dois jamais abandonner ». Parce que le coup d'après, c'est peut-être le bon, et le coup d'après, et le coup d'après, et le coup d'après. Et en réalité, tu n'abandonnes que quand tu es mort. Et je comprends très bien la manière de voir de Donald Trump. Mais je comprends très bien aussi la manière de voir de son père, qui consistait à dire, mais quel con. Mais quel con. À 6UP, s'arrêter après tout ça, c'est vraiment drôle quand même. Et ça te montre plusieurs choses. Ça te montre déjà qu'on est tous différents. Et qu'en réalité, tu peux penser comme le père et trouver juste ça drôle et t'arrêter là. Ou le voir comme le fils, Donald, et te dire, mais attends, mais moi jamais j'abandonne en fait. C'est pas après avoir fait tous ces efforts que je relâcherai et mon attention et mon argent. Moi, je l'aurais créé la boîte d'après qui se serait appelée 7UP. Et je l'aurais eu le succès. Parce que j'aurais pas fait tout ça pour me retrouver à genoux et dire et raconter l'histoire et dire, ben finalement, c'est quelqu'un d'autre qui a eu l'idée à ma place. Parce que c'est ça qui s'est passé. Si tu dois raconter la fin de l'histoire, c'est quelqu'un qui a vu 6UP et qui s'est dit 6UP ça sonne mal, 7UP ça sonne mieux, il ne l'a pas fait, je vais le faire. Et j'ai empoché le pognon. Et surtout, il y a un autre élément sous-jacent à cette histoire qui j'espère t'a alerté, l'importance du nom de ton entreprise. Alors aussi, soyons honnêtes, je ne veux pas te traumatiser et le nom de ton entreprise a une importance comme il peut ne pas en avoir, comme il l'a dit Trump au départ. Ça dépend par exemple du type d'industrie dans lequel tu te trouves, du type de service que tu proposes. Bref, il y a plein de paramètres qui font que le nom de ta boîte est plus ou moins important. Mais enfin, quand même, moi je vais le dire comme ça, le nom de ton entreprise, le marketing, la compréhension du client vis-à-vis de ce que tu vends, ça a quand même une importance capitale. Et donc, là, d'une façon détournée, il t'en parle. Et quelque part, j'espère que tu l'as bien compris, Parce que comprendre, ou plutôt je devrais dire, faire en sorte que tes clients comprennent ce que tu leur proposes et ce que tu fais immédiatement, c'est quand même déterminant dans ton trajet, surtout si tu es entrepreneur, et dans la vie que va avoir ton entreprise.
Il y a un autre mot que l'on entend trop peu lorsque les gens parlent de réussite, c'est le mot dynamique. Vous devez vous connaître et vous devez être conscient de votre dynamique. Certaines personnes ont connu une bonne dynamique. C'était mon cas lors de la campagne présidentielle. J'ai pris 3 à 4 jours de congé, ce qui est énorme, parce que ça faisait des mois que j'étais à 100% chaque jour. Les gens me disaient « on devrait te piquer pour prendre ton trop-plein d'énergie ». C'est la vérité. J'avais pris 3-4 jours de congé et au bout du premier jour, je suis retourné travailler. Vous devez continuer, vous devez pousser au maximum. Les vacances? Si vous voulez des vacances, alors c'est que vous n'êtes pas dans le bon business. Je prends très rarement des jours de repos parce que j'aime ce que je fais. Que ce soit dans mes business ou dans mes fonctions présidentielles. Peu importe, le mot dynamique est très important. Alors vous devez le comprendre et vous devez comprendre comment appréhender votre dynamique. C'est un mot qu'on emploie rarement quand on parle de réussite, mais il est si important.
C'est vrai que personne n'en parle et c'est intéressant pour l'avoir déjà dit. Avant de rencontrer ma femme, je ne prenais pas de vacances. C'était vraiment pas envisageable pour moi. Puis j'en ai pris de plus en plus et petit à petit au fur et à mesure que ben voilà, on a vécu ensemble, etc. Et aujourd'hui, je veux favoriser et donner un point et une place importante à ma famille. Donc, ça fait partie d'un équilibre. Ça, c'est un choix personnel. Par contre, moi, quand il dit dynamique, c'est aussi intéressant de parler de l'énergie. Bah, c'est un petit peu comme ça qu'il emploie le terme. Tu dois développer ton énergie. Et pour ça, bah, tu sais que le sport, c'est quand même quelque chose d'assez central dans le développement de l'énergie. Je suis assez d'accord quand tu as des personnes qui précisent ou qui vont remarquer qu'en fait, il y a une différence entre les gens qui font du sport et les gens qui ne font pas de sport. Parce qu'en réalité, c'est vrai. Le fait de faire du sport, ça va te permettre de monter en énergie. Tu vas pouvoir te décupler et accumuler et travailler ton énergie. Et je pense que si tu veux travailler justement ta capacité à avoir de l'énergie, tu dois tout simplement faire du sport. Et alors, je vais te dire un truc que me disait mon entraîneur, qui est un peu dur à entendre. Donc, pour que tu comprennes quand même d'où je viens dans le sport, c'est que moi, je me suis entraîné 12 fois par semaine à la natation pour mon point le plus haut, avec en plus des séances de muscu à 2, 3 ou 4 par semaine, je ne me rappelle plus. Donc, c'est-à-dire que je nageais 12 fois, le matin et le soir, 2 fois par jour. Et dans la journée, j'avais une séance de muscu 4 fois par semaine. Donc, ça faisait en tout plutôt dans les 16 entraînements par semaine, si tu veux, la totalité. C'était assez colossal. J'avais un certain niveau de natation. Et en gros, mon entraîneur à l'époque, un de mes entraîneurs, parce que j'en ai eu plusieurs, me disait toujours... En dessous de 4 entraînements par semaine, ça n'est pas un entraînement. Donc, tout entraînement cumulé, muscu, etc. Et lui, il disait que si tu voulais avoir des résultats sportifs, en tout cas avoir une corpulence et je dirais un corps qui soit athlétique un petit peu, donc on ne parle pas d'un corps très athlétique, on parle juste d'être un peu athlétique, il disait en dessous de 4 entraînements par semaine, il n'y a rien en fait. Les gens qui s'entraînent 2 fois par semaine, ça ne compte pas, etc. Il disait le minimum, c'est 4 par semaine. Tu te démerdes, ce n'est pas ton problème. Juste pour te donner l'astuce, et je te la donne aussi, au moment où tu m'écoutes, aujourd'hui, je m'entraîne le samedi matin et le dimanche matin et j'amène ma fille avec moi. Et je fais ça parce que je me dis que d'abord, c'est mieux qu'elle, elle s'occupe avec moi dans la piscine. Donc, moi, j'ai repris la natation. Donc, je vais nager et je le fais sur mon temps de repos. Ça ne gêne en rien mon travail et je le prends sur mon temps personnel. Et je me dis, bah, c'est une manière pour moi de faire du sport. Et après, j'essaye de caler des entraînements dans la semaine. Et aujourd'hui, je suis au-dessus des 4 entraînements par semaine. Je pense que c'est possible, même en travaillant beaucoup. Et je travaille, crois-moi, énormément. Mais par exemple, entre aller manger et aller nager, ben, je préfère aller nager et manger le soir. Tant pis, je saute un repas, mais au moins, je fais du sport. Donc tout ça, c'est des choix, c'est des priorités, comme l'a dit très bien Trump au départ. Et là, j'alimente un peu, finalement, sa partie dynamique parce qu'effectivement, on n'en parle jamais. Et si tu veux avoir de l'énergie, eh bien, tu fais du sport. Et juste pour te donner encore d'autres solutions, là, je suis en train de calculer comment je vais faire pour me réveiller plus tôt le matin, pour aller faire du sport pendant que tout le monde dort. Et du coup, rajouter encore des entraînements sans que personne ne le voit, sans que ça ne prenne pas sur mon temps de travail, tout en ayant ou en réussissant à augmenter à la fois mon niveau d'énergie et à la fois ben, mes entraînements sportifs. Comme quoi, c'est toujours possible, il faut le vouloir. Et ça, ben, pareil, je peux t'en parler, mais je ne peux pas le vouloir à ta place.
Il y a autre chose dont j'aimerais vous parler. La chance a un rôle important pour réussir. J'ai un ami qui est juste un gars malchanceux, un gars très malchanceux. Il est intelligent, il a fait une grande école de finance. C'est un gars très brillant, mais il a toujours été malchanceux. Et peu importe ce qui lui arrivait, ça n'allait jamais dans son sens. Il n'a jamais vraiment réussi. Et vous découvrirez quand vous aurez beaucoup de succès que les personnes que vous aimerez le plus seront souvent les personnes qui ont moins de succès que vous. Parce que lorsque vous êtes à table, vous pouvez leur raconter tous vos exploits et eux se taisent et écoutent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous voulez être respecté, entourez-vous toujours de personnes qui ont moins de succès que vous. Vous comprenez ce concept? Ce gars avait vraiment la poisse. Il était comme maudit. Il était toujours malchanceux. Peu importe ce qu'il faisait. Quand je l'appelais, il était toujours blessé. Il y avait toujours quelque chose de bizarre qui lui était arrivé. Alors, il était blessé. Je lui demandais, « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je me suis cassé l'épaule. « Mais comment tu as fait pour te casser l'épaule ? Tu fais du football américain ?»« Non, je suis juste tombé de mon lit en dormant. » Ce gars pouvait se blesser à tout moment. Peu importe ce qu'il faisait, il était susceptible de se blesser à tout moment. Il était toujours malade. J'appelais sa femme, elle me disait, « Oh, tu sais, il ne va pas très bien, il est malade, il a dû choper un truc dehors. » Alors il était à l'hôpital, il se remettait de sa blessure à Long Island. Il avait l'épaule cassée et écoutez bien, il était en train de rouler sur la voie rapide de Long Island pour rentrer de l'hôpital lorsqu'un énorme camion heurta le panneau qui indique New York City 10 km et le panneau tomba sur sa voiture. Si ça c'est pas un signe, imaginez, il ne s'est pas fait percuter par un camion, il s'est fait percuter par un panneau de signalisation. Alors je l'ai appelé pour savoir si son épaule allait mieux et sa femme a répondu en me disant « Non, pas vraiment ». Un camion est rentré dans un panneau de signalisation alors qu'il était en train de rentrer de l'hôpital. Et le panneau est tombé sur la voiture et il s'est de nouveau cassé quelque chose. Alors il est retourné à l'hôpital. Vous voyez, avec des cas comme ça, on se dit que la chance a son importance.
Alors je suis d'accord avec lui, mais j'aime pas son histoire. Comme quoi, tu vois, on peut ne pas être d'accord. Pourquoi j'aime pas son histoire? Parce que là, il invoque une malchance en plus qui touche la santé. Et c'est vrai que la santé, c'est le seul élément dans la vie qui peut t'arrêter, quoi. On va pas se mentir. De toute façon, si t'es mort, t'avances plus. Ouais, c'est d'une vérité absolue. Donc, pour revenir à la discussion que je suis en train d'avoir avec toi et au sujet que Trump vient de mettre sur la table, la chance, elle a une importance, mais je sais pas comment dire ça. Elle est liée à ton travail. Personnellement, à force de réfléchir à tout ça, d'y travailler, de, comme je le fais là, de faire des émissions sur des entrepreneurs, etc., des gros entrepreneurs, je constate quand même qu'il y a un double facteur qui rentre en ligne de compte, que je vais te délivrer tout de suite, qui est à prendre en considération. C'est que, un, les gens qui réussissent travaillent tous beaucoup. C'est un des facteurs, un des points que tu vas retrouver chez les gens qui réussissent. Ils te le disent tous, je travaille beaucoup. Donc, je pense qu'il est correct de noter que une grosse amplitude horaire, travailler beaucoup, tu peux le faire sans aucun risque, ça va t'amener d'une manière ou une autre à une forme de réussite, tout en sachant que ça ne te garantit pas de réussir. Mais en tout cas, c'est un des points communs de tous ceux qui ont réussi, ils travaillent beaucoup. Donc, un, travailler beaucoup. Et à l'opposé de ça, qui n'a aucun lien avec le fait que tu travailles beaucoup ou pas, il y a la chance. Et pour moi, la corrélation, c'est la suivante, c'est parce que tu travailles beaucoup dans ton domaine d'activité, que tu vas avoir la capacité à analyser les opportunités qui se présentent à toi. Et moi, je vous en ai parlé plusieurs fois. Je n'ai pas de honte à le dire. Par exemple, Internet, maintenant, ça fait 9 ans que je travaille sur Internet. Je ne me considère pas bon sur Internet parce que ce n'est pas mon domaine de prédilection. Mais depuis quelques années, je commence à voir que j'ai une capacité à cerner les opportunités sur le web parce qu'à force de travailler dessus, ben, je commence à les voir. Et là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que c'est le travail qui te permet de ça. C'est-à-dire que le travail acharné de toutes ces personnes, qu'on parle de Trump ou de qui que ce soit, ben, permet de développer une espèce de radar, une espèce de détecteur à opportunité. Et c'est ce détecteur à opportunité qui fait que la chance se manifeste chez eux. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils ont beaucoup travaillé qu'ils voient les opportunités. Comme ils ont beaucoup travaillé, ils ont suffisamment confiance en eux pour saisir ces opportunités. Ils les saisissent et du coup, ils bénéficient de la chance qui est en train de se mettre en place devant leurs yeux. Et donc, pour toi aussi avoir accès à une forme de chance, en tout cas celle que je te décris ici, eh bien, il te suffit de beaucoup travailler. Alors, il te suffit, facile à dire et difficile à faire, on est d'accord, mais tu comprends ce que je veux dire. Et donc, l'idée, c'est bien de distinguer d'un côté le travail acharné et la chance, de reconnaître et d'accepter que la chance, elle existe. Parce qu'en fait, quand tu travailles dans n'importe quel domaine, il y a les éléments sur lesquels tu as une prise, sur lesquels tu peux influencer ou en tout cas influer. Et puis, il y a tout ce sur quoi tu ne peux pas influer. Et en gros, la chance, c'est quand tous les domaines, tous les éléments sur lesquels tu ne peux pas influer s'alignent pour te permettre eh bien, de faire quelque chose. Et ça arrive, on ne va pas se mentir. Ça arrive à tout le monde et ça arrive plusieurs fois dans une vie et dans tous les domaines de la vie. Mais pour pouvoir saisir ces opportunités, faut-il encore en être capable, être ouvert à ça, avoir les compétences pour te dire « Eh bien là, il y a une opportunité et je suis en mesure de la saisir. » Voilà. Et ça, ben, si tu le comprends, c'est bien. Oui, c'est bien.
Mais l'une des meilleures histoires pour moi est celle de Gary Player. Gary Player était un golfeur, un grand golfeur. Un des plus grands golfeurs de tous les temps. Et il avait un désavantage, il était très petit. Il travaillait plus dur que tout le monde, il travaillait bien plus dur que tous les autres golfeurs, mais il était petit. Il avait un bon jeu, il frappait loin, c'était un très grand golfeur. Tout le monde a déjà entendu parler de Gary Player, c'est un Sud-Africain. C'est un gars génial, il est encore très en forme. Je l'ai revu l'autre jour, il a plus de 80 ans et il est encore phénoménal. Il joue encore comme il y a 20 ans. Gary Player a travaillé très dur. Et il a été le premier à dire, et je ne crois pas que je l'avais déjà entendu auparavant, il disait « Plus je travaille dur, et plus je suis chanceux ». Ça, c'était Gary Player. Il travaillait si dur. Il venait de gagner l'US Open. Je lui ai demandé « Tu fais quoi ce soir ?» Il m'a répondu « Je vais m'entraîner ». « Mais tu viens de gagner le tournoi ?»« Oui, mais je dois encore m'entraîner ». J'ai vu des personnes travailler très très dur, et ne réussir que dans une certaine mesure. Parce que je crois vraiment que la chance a un rôle dans tout ça. Mais il y a des personnes qui travaillent dur. Souvenez-vous de cette phrase. Plus je travaille dur et plus je suis chanceux. Plus il s'entraînait dur et plus il était capable de frapper la balle fort et loin. Il travaillait son jeu court, son jeu long, ce gars était vraiment incroyable. Il a gagné 18 majors au cours de sa carrière. Il a gagné plus de 175 tournois à travers le monde. Il me semble d'ailleurs que c'est un record. C'était un travailleur acharné. Je lui demandais « Comment fais-tu cela ? Comment fais-tu pour tout réussir ?» Sa réponse était toujours « C'est simple, plus je travaille et plus je suis chanceux. » Et je pense que c'est une bonne réponse pour tous les jeunes. Et même pour les plus vieux. Je travaille encore très dur. Je pense avoir travaillé plus dur ces 8 derniers mois que je ne l'ai fait au cours de toute ma vie. Croyez-moi, et je prends du plaisir. Vous devez travailler dur. Plus vous travaillez dur, souvenez-vous. Plus vous travaillez dur et plus vous deviendrez chanceux.
Ben finalement, Donald et moi, sans se concerter, on est d'accord. Plus tu travailles dur, plus t'es chanceux. Je crois que c'est idéal pour terminer. Et en fait, moi, je vais aller plus loin que ça. En fait, c'est comme une marche ou comme un mur à franchir. C'est-à-dire que tu peux toujours pousser le bouchon plus loin. Moi, à un moment donné, j'ai voulu redonner un coup par-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je travaillais beaucoup et je me suis dit comment je peux travailler encore plus. Et j'ai rajouté une couche. C'est-à-dire que j'ai augmenté encore mon volume horaire. Et quand je l'ai eu augmenté, j'ai découvert que je pouvais mieux m'organiser et arriver à produire autant qu'en travaillant au maximum de mes capacités, mais avec encore, en changeant encore mon organisation. Et au fur et à mesure que j'ai évolué à la fois sur l'organisation et sur le volume de travail, je me suis rendu compte que je pouvais toujours pousser plus loin le bouchon jusqu'à arriver au stade où, je t'en ai parlé tout à l'heure, je pouvais même ajouter du sport parce que je m'organisais mieux, je travaillais mieux, etc. etc. Et c'est intéressant parce que je pense qu'il y a trop de personnes qui déjà abandonne avant même d'avoir commencé. Ça a été déjà dit dans l'émission, mais là, à ce stade, je suis obligé de le rajouter. Et surtout, je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte de la capacité qu'ils ont à produire. Et je vais te donner un énorme conseil, en fait, que j'espère que tu vas comprendre. Ta capacité à produire, elle est liée à ce que tu es capable d'éliminer dans ta vie. Je répète parce que c'est important. Qu'est-ce que tu es capable d'éliminer dans ta vie pour augmenter ta capacité à produire. Et plus tu vas être capable d'éliminer des choses. Moi, j'ai éliminé la musique. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont halluciner quand je vais dire ça, mais c'est vrai, j'écoute plus de musique. J'ai éliminé la télé. J'ai éliminé les séries. Alors, je te dis pas, je vais être transparent. Il y a des moments, j'ai des rechutes. Il y a des moments, je dois relâcher la pression. Parce que plus je pousse sur la pression, plus à des moments, j'explose et j'ai besoin de me détendre. Je reste un être humain. Il y a des contrebalances. Mais j'ai quand même éliminé beaucoup de choses et toutes ces choses que j'ai éliminées, je les ai remplacées Et ce par quoi je les ai remplacés m'a amené plus de résultats. Ces résultats m'ont amené plus de confort et puis j'en veux toujours plus. Et puis, tu connais la suite de l'histoire. Et je t'incite à te dire qu'en réalité, au moment où je te parle, j'en suis certain, tu n'es même pas à la moitié de tes capacités. Je suis certain que tu es capable de doubler ton niveau de travail actuel, que de doubler ton niveau de production actuel, que tu peux faire deux fois plus que ce que tu ne fais actuellement, juste si tu osais pousser le bouchon plus loin en éliminant des choses qu'aujourd'hui tu n'es pas prêt, de ton avis, à éliminer et en te concentrant sur des choses, comme l'a dit Trump, qui te passionnent ou pour lesquelles tu as envie, en tout cas, de donner de ton temps et de ton engagement pour obtenir de gros résultats. Après, encore une fois, je crois que je l'aurais dit tout au long de cette émission, j'ai beau t'en parler, il n'y a que toi qui es maître de tes actions et il n'y a que toi qui es prêt à faire ce qu'il faut pour voir se réaliser dans ta vie tes rêves, tes objectifs, etc., etc. Et je suis hyper content, je veux finir là-dessus, d'avoir fait cette émission sur Donald Trump. Tu sais très bien que donc en ce moment, je travaille sur un gros podcast que je vais sortir, je te rassure, je bosse dessus et il va sortir. Et qu'en attendant, j'essaye d'éviter un petit peu les qui veut être mon associé, de rester sur des formats plus courts pour me permettre de dégager du temps pour avancer sur l'émission en question. Et honnêtement, ça avance correctement, je suis content. Et le truc qu'il y a, c'est que là, vraiment, Donald Trump, c'est un sujet intéressant parce que je sais qu'il est peu aimé, que beaucoup de gens ont un avis négatif sur lui, alors que la plupart des personnes, déjà, et soyons honnêtes, et sois honnête, tu ne le connais pas. La plupart des gens qui me parlent de Trump ne le connaissent qu'au travers du filtre de la télé et de ce qu'en disent les journalistes. Donc, autant dire qu'ils ne le connaissent pas. Et en plus, Trump évolue dans des sphères qui est incompréhensible pour la plupart des gens parce que la plupart des gens n'ont pas atteint son niveau. Donc soyons honnêtes, comment veux-tu comprendre quelqu'un qui a atteint et qui a réalisé des choses dans sa vie que tu n'as jamais atteint, que tu n'as jamais réalisé ? Donc c'est même pas, c'est juste ce que je suis en train de dire, c'est du bon sens, tu le sais au fond de toi. Tu vas arriver à comprendre des gens qui sont dans des situations similaires à la tienne. Mais c'est pour ça que je fais ces émissions. Comprendre des multimilliardaires qui ont fait plusieurs fois faillite, qui se sont remontés, qui bossent comme des malades et qui en plus sont un petit peu originaux et paradoxaux comme Donald Trump, alors là, laisse tomber, c'est à mille lieues de ta situation. Et là, je trouve que dans cette émission, il véhicule des valeurs qui sont des valeurs qu'on peut partager avec lui et qui sont à notre échelle. Donc si tu as réussi à écouter cette émission, je te félicite parce que je sais que pour beaucoup, Trump, c'est égal à « non, je ne peux pas écouter cette personne, je le déteste, etc. etc. » Et je te félicite parce que la vie, c'est ça, c'est essayer d'aller au-delà de ses préjugés, essayer de s'ouvrir et de se dire que peut-être, tu as une vision et une manière de penser et tu as le droit de l'avoir, mais pour autant, c'est pas parce que tu vois les choses comme ça ou que tu penses comme ça que d'abord tu as raison et qu'ensuite, tu ne peux pas malgré tout avoir de l'intérêt ou de l'affection ou même être d'accord avec des personnes qui, au premier abord, tu les détestes ou tu ne peux pas les blairer, quoi. Et là, je pense que Trump, c'est pour beaucoup ce type de personnalité-là. Et si tu as réussi à aller au-delà, je te félicite encore. C'est vraiment bien. C'est pour moi le chemin de la réussite, c'est-à-dire être capable de faire ce qu'on ne veut pas faire, aller dans la direction de sa peur, c'est-à-dire je ne veux pas écouter Trump parce que je ne peux pas le blairer ou parce qu'il me fait peur. Et là, je fais l'effort de l'écouter et du coup, je combats ma peur et du coup, je me rends compte que finalement, je peux quand même être d'accord avec des gens qui, au premier abord, ne me plaisent pas. Et du coup, je peux m'ouvrir à de nouvelles choses et du coup, il y a plein de nouvelles choses qui vont se débloquer pour toi. Bon, bref, merci d'avoir écouté cette émission. Laisse-moi un commentaire là où tu écoutes ce podcast, ça m'aide énormément. Ou alors, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission, va sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet livres, il y a mes livres, dans l'onglet formation, il y a mes formations, dans l'onglet coaching, on peut travailler sur ton projet. Je te remercie d'être fidèle au poste et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut !